version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, amis auditeurs. Merci de nous écouter sur le 93.1. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale. Dans cette édition, je vous propose une réflexion sur la démocratie aujourd'hui en France. Une réflexion sur la démocratie à travers le verbe militer, le fait de militer, l'action de militer. Johann Feuerbach publie aux éditions Autrement, Militer, verbe sale de l'époque. Un livre qui interroge les possibilités et les limites de l'action militante, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle. Bonsoir Johann Feuerbach.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Je suis ravi de vous recevoir pour la publication de ce livre « Militer, verbe sale de l'époque » chez Autrement. Je rappelle que vous êtes docteur en littérature, critique et éditeur. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, parmi lesquels « Après la littérature » paru en 2018. Cofondateur de Diacritique, magazine culturel sur Internet, vous dirigez à présent la revue culturelle Collatéral avec Simona Krippa. Votre dernier ouvrage, donc je rappelle le titre, « Militer, verbe sale de l'époque », est une la réflexion que vous menez dans ce livre, Johann Feuerbach, part du constat qu'aujourd'hui en France, l'acte de militer a été déconsidéré, disqualifié, dévalorisé, attaqué, combattu, de diverses manières que nous allons examiner. Dire de quelqu'un qu'il milite, c'est le salir, c'est lui ôter toute parole possible. Avant de comprendre avec vous comment on est arrivé à une division aussi négative de l'acte de militer, restons quelques minutes sur l'histoire sémantique de ce verbe, comme vous le faites, page 27 et 28 du livre. Rappelez-nous ce qu'il advient de ce mot après que la Révolution française a démilitariser l'usage en 1794.
Merci beaucoup déjà de me recevoir. Je suis ravi d'être au micro d'Aligre FM. Alors effectivement, il faut, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet essai, dès son introduction, de réfléchir en fait à l'usage du mot militer. Parce que, comme vous l'avez rappelé, militer devrait être un terme noble, un terme valorisant, puisqu'il engage un combat d'idées. Et très vite, on s'aperçoit que c'est un terme dévalorisé. Et donc, quand j'ai perçu cette dévalorisation, notamment à travers le massacre de Sainte-Soline, ce que Gérald Darmanin avait pu dire, la manière dont le discours de Justine Triet avait été dévalorisé, rabaissé et quasiment annulé lorsqu'elle a eu la Palme d'Or à Cannes pour Anatomie d'une chute en 2023, elle a été dénigrée dans son discours qui défendait en fait le combat contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, et quand Pierre Rossanvallon aussi a été qualifié par Emmanuel Macron lui-même de militant pour le disqualifier en tant qu'intellectuel, je me suis dit que quelque chose se passait autour de ce verbe militer et que le verbe tendait à devenir une insulte. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de ce mot. Et l'histoire de ce mot, elle est assez simple et je dirais qu'elle se découpe en quelques temps historiques majeurs. Le premier, c'est l'apparition du mot à la Renaissance, qui est un mot extrêmement dur, un mot militaire, un militer. On l'entend bien hein, dans la manière dont le mot se construit et se sonorise à nos oreilles. C'est un mot qui en fait signifie un enrôlement, un embrigadement, et qui est de l'ordre du combat et du combat physique. Mais comme vous le rappeliez à l'instant, en 1794, le terme a pris un sens figuré. Du sens propre, il a pris un sens figuré, et il a pris un sens figuré au moment de la Révolution et au moment où précisément les idéaux démocratiques se sont dérobés, où la démocratie, qui était pourtant promise à l'horizon de la Révolution française, s'est dérobée. Et donc ce terme, en 1794, devient en fait le synonyme de tous les moyens en fait, pour faire passer ces idées, tous les moyens en fait, intellectuels, politiques et civiques pour faire advenir l'idée de démocratie. Et donc, très rapidement, ce terme militer va être connoté positivement jusque dans les années 1830 où apparaît un autre terme qui va nous intéresser et qui, moi, m'a intéressé, c'est celui de militant. Et le terme de militant apparaît autour de 1830 après ce qu'on a appelé les trois glorieuses hein, de juillet 1830, de cette révolution avortée. Et le terme de militant va accompagner ainsi tous les soubresauts révolutionnaires, que que ce soit en 1848 ou après la Commune en 1871, tous les soubresauts révolutionnaires de la France du 19e siècle pour que justement, précisément, quelque chose arrive, à savoir la démocratie, si bien que les militants apparaissent un petit peu à chaque fois comme ceux qui veulent faire advenir la démocratie en tant qu'elle n'est pas là et en tant que... Ils sont toujours un petit peu les enfants mélancoliques de la Révolution française, celle de 1789, dont ils espèrent maintenir à flot l'horizon d'espoir qui se dessine pour la société.
Donc, on comprend que militer est donc consubstantiel à la démocratie. Alors, vous articulez ce mot avec un autre terme qui est l'engagement. Johann Feuerberg, donc, dans votre livre, il y a un chapitre intitulé « La société des engagés ». Donc, vous écrivez... La société des engagés va bientôt naître sur les cendres du militantisme. C'est ce que vous appelez le post-militantisme. Alors, avant d'examiner encore en profondeur ce qu'est l'engagement, ce que signifie s'engager, restons encore sur le militantisme. Pour mieux saisir donc les trois figures majeures, vous les étudiez, donc, pour mieux saisir pardon, ces trois figures majeures, donc, qui sont le. Vous les étudiez historiquement, écologiquement, dans trois grands âges militants. L'âge des militants. L'âge du militantisme, l'âge du post-militarisme. Expliquez-nous ce que sont ces âges et ces figures du militant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors oui, ces âges et ces figures du militant, j'ai donc évoqué tout à l'heure à l'instant, et vous le rappeliez, le fait que j'ai senti que ce terme de militant et de militantisme glissait de manière négative. Donc je commençais un peu à regarder, comme on l'évoquait à l'instant, l'histoire, l'étymologie du mot, les sens du mot, et puis après la manière dont les militants agissaient eux-mêmes. On a parlé des militants qui, tout au long du 19e siècle, font vibrer l'idée de révolution française. Et puis le XXe siècle, c'est quand même un changement dans l'action même de militer, puisqu'il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler une professionnalisation du militant. Et vous l'avez rappelé, j'ai essayé de découper le XXe siècle en trois grandes périodes. Alors, c'est toujours des bornes chronologiques qui sont malléables, hein, qui sont effectivement des bornes chronologiques provisoires, mais qui permettent quand même d'être des hypothèses de travail et de pouvoir commencer à réfléchir aux questions qu'on évoque. Et le premier âge que vous rappeliez très justement, c'est ce que j'ai appelé l'âge des militants, qui s'étend dès le début du XXe siècle, pardon, et qui s'accentue après 1945 autour de deux figures reines, que sont les prêtres ouvriers et les militants communistes. Alors, les prêtres ouvriers, on les a peut-être un petit peu oubliés, mais ce sont des prêtres qui vont mettre en avant trois idées fortes, celle de partage, celle de fraternité, et puis celle aussi de salissure. Hein. Ils étaient dans leur ministère avec Dieu, et puis d'un seul coup, ils se sont aperçus que finalement, les pratiquants à l'église étaient trop bourgeois, ne convenaient pas en fait à leur mission, et qu'ils devaient s'installer dans les usines, et pour commencer en fait à voir les ouvriers et à travailler avec eux. C'est donc un acte d'abnégation où finalement le capitalisme est assimilé à une sorte de péché structurel, ce que récupérera l'Amérique latine des années 70 avec le marxisme, autour de ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Ça, c'est la première figure professionnelle du militant, qui est accompagnée d'une autre figure professionnelle dans ce premier âge des militants qui court depuis 1945. C'est celle du militant communiste qu'on connaît beaucoup mieux, peut-être, puisqu'il est à la fois frappé d'un saut, d'un triple saut même, celui de l'héroïsation, de l'idéalisation, et puis aussi du désintéressement, c'est-à-dire une figure finalement non pas tant politique, mais une figure assez romantique de l'engagement. Où le militant communiste, pour faire triompher ses idées, ne va reculer devant aucun moyen, jusque finalement une sorte de sacrifice, à une manière sacrificielle de, à la fois de s'effacer pour faire triompher ses idées, et puis de servir une cause qui est celle du communisme en soi. Alors évidemment, avec tout ce que l'on sait de tous les désastres humains et matériels de ce que cette idée de communisme a pu coûter très cher, notamment en vie. Et à partir de là, comme vous le rappeliez, j'ai vu que très vite, il y avait tout au long des années 60, très rapidement, une sorte de déprofessionnalisation des militants, et est apparu au début des années 60 un terme que vous avez évoqué, qu'on a évoqué à l'instant, qui est le mot de militantisme. Et le mot de militantisme, en fait, il apparaît dans les années 60. Il est adapté vraisemblablement de du monde anglo-saxon. Et puis, il est là, ce militantisme, comme une sorte de fonction, une sorte de ce que certains chercheurs ont appelé le capital militant, qui vient en fait se greffer comme une adjectivation. On dira par exemple qu'il y a des chauffeurs de taxi militants, des enseignants militants, et puis des écrivains aussi militants qu'on va appeler des écrivains engagés, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir militer, c'est-à-dire essayer, comme les écrivains engagés, ceux de Sartre qu'il a pu théoriser dans l'engagement, dans Qu'est-ce que la littérature en 1947, c'est savoir des écrivains qui sont capables à la fois de faire de la politique un outil de révélation sociale, d'incitation à l'action, et puis aussi malheureusement un peu de dévoiement de la littérature, puisque la littérature engagée pâtit d'une image à la fois valorisée politiquement, mais incidemment dévalorisée esthétiquement, puisqu'elle ne serait là que pour transmettre un message. Et à partir de là, j'ai vu que les années 80 aboutissaient à ce qu'on a appelé avec vous l'âge du post-militantisme.
Alors, dans ce cas, quelle différence on peut faire entre militer et s'engager?
Eh bien, c'est justement les années 80 qui nous proposent cette dichotomie, parce que pour l'instant, ce que vous rappeliez à l'instant, c'est que jusque dans les années 70, militer est le synonyme de s'engager. Mmh. Quand on milite, on s'engage. Mais progressivement, tout au long des années 80, avec tout d'abord un acte fort, celui de l'arrivée le 10 mai 80 de Mitterrand au pouvoir, c'est la gauche qui arrive et c'est une certaine gauche militante. C'est-à-dire c'est une gauche qui a milité tout au long de la seconde moitié du XXe siècle pour que précisément le socialisme triomphe. Et ça pose une question, c'est-à-dire ceux qui ont milité, est-ce qu'ils vont faire parvenir ces idéaux à maturité ou de manière gouvernementale, ces idéaux pour lesquels ils ont milité? Est-ce que la question du militantisme est compatible avec celle de la délégation politique? C'est la grande question que le mitterrandisme a posée et à laquelle, malheureusement, dès 1983, avec le tournant rigoriste et néolibéral, elle a apporté une réponse négative. Et à partir de là, à partir de ce tournant de 83, le terme de s'engager va devenir progressivement l'antonyme du terme militer, parce que s'engager va devenir la version morale, atténuée et progressivement dépolitisée du militantisme qui va être petit à petit ostracisé et vu comme une sorte de radicalité, puisque tout au long des années 80, il y a deux fables qui vont naître. Il y a ce qu'on a appelé l'émergence par le néolibéralisme des classes moyennes, à savoir finalement tout le monde ferait partie de cette espèce de grande classe un peu molle, hein, comme dirait Nathalie Quintane. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est la fin de la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est la fin de la lutte des classes, savoir si on est engagé, c'est que progressivement, on va effectivement être dépolitisé. Et un des grands exemples qu'on peut donner, c'est par exemple toutes les associations humanitaires. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'organisation politique va se transférer petit à petit vers l'associatif, le monde associatif, où finalement tout ce qui va être posé comme question, c'est la question du désintéressement, la question de l'altruisme, qui va se poser, je dirais, de manière désintéressée. Et vraiment, c'est le saut de l'humanitaire et du volontariat qui va progressivement, ce monde associatif, va progressivement mettre un couvercle sur le militantisme qui va être petit à petit vu comme une petite organisation séparatiste, hein, ce qu'on a bien vu notamment à Sainte-Soline, puisque Gérald Darmanin les a qualifiés, ces écologistes qui venaient contre les rétentions d'eau des méga-bassines, et les a qualifiés d'éco-terroristes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Johann Ferber, je rappelle donc le titre de votre livre, Militer. C'est publié donc aux éditions Autrement, Militer, verbe sale de l'époque. Alors vous le rappeliez, vous avez donc souligné deux faits importants, même trois même, donc ce qui s'est passé à Sainte-Soline en mars 2023, puis la remise du prix de la Palme d'Or, pardon, donc toujours en 2023, à la réalisatrice Justine Triet. Pour quelle raison ces deux faits vous ont marqué à ce point?
Alors, c'est, Oui, ces deux faits m'ont marqué. Alors, il y a un troisième que j'évoque un petit peu en filigrane et qui est lié en fait à une expérience personnelle qui en fait a surgi dans ce printemps 2023 qui était, souvenons-nous, très agité en fait par la contestation de la réforme des retraites que Emmanuel Macron a imposée sans véritable démocratie sociale en fait à la France. Et donc, dans ce mouvement d'agitation, malheureusement, mes parents étaient malades et j'ai dû m'occuper d'eux. Et vous allez voir, ce détour biographique est très matériel. J'ai dû aller faire les courses et comme tout un chacun, j'achetais des légumes et j'ai vu des betteraves cuites sous vide. Ces betteraves cuites sous vide avaient un petit dessin, une betterave qui était en bande dessinée et qui brandissait le poing et qui disait « Je suis une betterave engagée ». Et là, je me suis dit « Mais moi qui viens d'un horizon littéraire, vous l'avez rappelé, l'engagement, je l'ai rappelé aussi à l'instant, c'est Sartre. Comment se fait-il qu'en 2023, une betterave peut s'exclamer sur un paquet « Je suis une betterave engagée » Ça veut dire qu'on a perdu le sens de l'engagement. Et tout de suite après, je crois que c'était le samedi, je faisais les courses le mercredi et le samedi, il y a eu Sainte-Soline. Et Sainte-Soline, très vite, j'ai vu quelque chose qui ne m'avait pas du tout marqué, notamment sur les chaînes d'info continues. C'était l'usage du mot militant qui rimait en fait avec quelque chose de dénigrant. Et cet usage du mot militant était en fait un mot qui jetait la suspicion sur la manière dont les uns et les autres agissaient. Comme si être militant, c'était finalement être placé sous le sceau d'une espèce de suspicion généralisée, comme s'il faisait partie d'une organisation secrète, osons le mot, d'une organisation criminelle dont les tenants et les aboutissants nous auraient échappé. Et la réponse physique très forte, hein, puisqu'il s'agit d'un massacre à Sainte-Soline, avec un nombre de blessés considérable, et des gens qui sont restés notamment dans des urgences absolues très longtemps, la violence qui a été opposée physique à ces militants montre bien qu'ils étaient traités de manière totalement criminelle et qu'ils étaient traités comme des sous-citoyens. C'est comme si le mot de militant vous faisait sortir de la citoyenneté et vous jetait dans une espèce de déchéance de citoyenneté, alors que le mot engagé vous intègre socialement. Le mot engagé vraiment vous intègre socialement puisque, par exemple, dans les entreprises, on a le développement d'une culture de l'engagement où pour que vous puissiez être intégré à votre équipe, on vous demande, notamment dans votre CV, lorsque vous êtes recruté, des amis en ont fait directement l'expérience, on vous demande est-ce que vous vous engagez dans une association et c'est valorisé. Alors que le terme de militant est dévalorisé et justement, Justine Triet, comme on l'évoquait, lorsqu'elle arrive au Palais des Festivals, qui est le sommet du cinéma mondial, le sommet de la mondanité, dans un monde où est, qui est dominé hein, par cette enceinte, par ces enceintes de palaces 5 étoiles, même plus, quand elle prononce finalement ce discours contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, elle déchoit. Elle n'est pas commentée à la hauteur de son courage. On ne parle pas du tout du courage de Justine Triet de justement de se servir de cette plateforme qui est extraordinaire mondialement. C'est en Modion Vision la palme d'or. C'est la plus haute distinction cinématographique au monde. Et personne ne salue son courage de sacrifier son temps de parole pour savourer sa victoire, mais plutôt pour penser de manière démocratique aux autres. Personne ne salue ça. Au contraire, on la rabaisse et on la suspecte d'être militant, c'est-à-dire qu'on renverse un peu le discours. On dit que loin d'être aussi franche qu'elle voulait paraître, en fait, elle est là pour amener un discours secret, un discours pour lequel, finalement, elle aurait des objectifs autres et qui dénaturerait à la fois la vérité qu'elle veut poser sur la table. Et donc, ce terme de militant est un terme qui a été retourné en déchéance de citoyenneté pour Sainte-Soline, mais aussi en déchéance morale et artistique pour Justine Triet, c'est-à-dire finalement ce qu'on essaye, c'est de confisquer la parole dans les deux cas. Vraiment, le terme de militant aboutit à une confiscation du débat public et c'est, je dirais, un trait fonctionnel majeur du temps macroniste qui est le nôtre depuis 2017.
Johann Feuerbert, existe-t-il aujourd'hui des barrières au militantisme? Alors, plus exactement, quelles sont aujourd'hui en France les forces qui dissuadent ou qui s'opposent au militantisme?
Je dirais que les forces qui dissuadent et s'opposent au militantisme, elles sont nombreuses, elles sont diffuses. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir à ces... Je dirais que la première force qu'on a largement évoquée jusqu'à présent, c'est celle de ce que moi j'ai appelé l'engagisme, à savoir notamment avec le paradigme de l'écologie, c'est-à-dire que de nos jours, tout le monde est engagé. on vit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans ce que j'ai appelé la société des engagés. Et il est faux de dire que quelques personnes s'engagent, c'est le postulat, tout le monde est engagé, au point même que c'est la condition de l'homme contemporain. On vit dans une culture de l'engagement. Je dirais qu'elle est triple, cette culture de l'engagement. Elle est commerciale. Vous avez, par exemple, avec le commerce équitable, par exemple, vous faites un geste engagé pour la planète. Elle est salariale, je l'évoquais à l'instant. On vous incite de toutes parts, en fait, à vous engager dans une association. Et puis, elle peut être aussi civique. Vous avez des développements, notamment de grandes municipalités comme Marseille, qui développent sur les smartphones des applications qui vous demandent d'être engagé au quotidien. C'est-à-dire, si vous voyez une nuisance, vous prenez une photo et elle est envoyée. Enfin, ce n'est pas une application téléphonique, c'est de la milice numérique. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est de la délation cool. Et à partir de là, ça, c'est le premier pôle, je dirais, dont l'écologie, finalement, fournit le modèle. Et, par exemple, on nous parle tout le temps des petits gestes du quotidien, mais ces petits gestes du quotidien qui peuvent aider la planète, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan pollué, puisqu'on sait très très bien que si on n'a pas la fin du carbocapitalisme, on est le carbocapitalisme, les émanations de gaz carbonique, c'est 80% de la pollution. Donc moi, quand mes neveux me coupent l'eau du robinet quand je me brosse les dents, tout le monde veut bien faire un geste pour la planète, mais c'est tout à fait dérisoire. Et ça fait partie d'une sorte de micro-management au quotidien, puisque ça installe une sorte de contrat en fait avec vous, qui est vraiment un contrat managérial, à savoir un contrat narcissique. Bien sûr, c'est extrêmement valorisant de vouloir sauver la planète en roulant à vélo, mais alors moi je le fais, on le fait tous, on va pas non plus travailler contre la planète, mais il faut bien comprendre que c'est dérisoire, et c'est peut-être un début de prise de conscience pour certaines personnes, mais sauf que c'est traité dans le carbocapitalisme dans lequel on vit, comme finalement un but en soi. Voilà, c'est pas le début d'une prise de conscience, c'est une fin en soi. Et les autres moyens qu'on peut voir et qui empêchent de lutter, les autres obstacles, je dirais qu'ils se cristallisent de deux manières. La première chose, je dirais que c'est le terrorisme. En fait, tout est mis sous le terme de terrorisme. À savoir que lorsque l'on est criminalisé, on l'évoquait tout à l'heure, on agit de manière secrète et donc on tombe dans ce qu'on appelle la radicalisation, et c'est une peur assez justifié en France depuis notamment les attentats de 2015 et le développement de ce que le ministère de l'Intérieur a appelé le baromètre des comportements et que je commente à l'intérieur du volume dans ce que j'appelle moi la fabrique des radicalisés. C'est-à-dire que médiatiquement, culturellement et je dirais politiquement, il y a la fabrique de ce qu'on appelle des radicalisés, à savoir ce baromètre des comportements sur lequel malheureusement peu de gens sont revenus et qui en fait est une sorte d'échelle, un peu comme dans Minority Report, une sorte d'échelle où vous n'avez pas commis quelque chose, mais la fréquentation de tel ou tel site peut vous laisser être en possiblement un terroriste.
Et donc, presque coupable. Même.
Presque ça, coupable, ça, en ça, fait, ouais. Presque coupable. Et donc, le curseur se déplace de manière extrêmement angoissante, puisque ce que vous n'avez pas commis vous incrimine, c'est-à-dire que tout ce qui est en puissance devient la possibilité d'un acte. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, alors que ça peut avoir une efficacité policière et antiterroriste indéniable, sauf que mal employé, mal utilisé, décontextualisé, c'est ça le vrai problème. Le problème, lorsque c'est retiré de son contexte, eh bien tout militant peut devenir un potentiel danger public à partir du moment où le but politique que vous assignez au militantisme est un but faussé. Et on l'a bien vu avec Gérald Darmanin qui a parlé d'éco-terrorisme alors qu'aucune arme n'avait été retrouvée sur les militants à Sainte-Soline et qu'au contraire, les pauvres ont terminé sur une civière.
Je vous propose donc qu'on écoute un peu de musique et qu'on reprenne notre discussion. Johann Feierberg, je rappelle le titre de votre livre, publié chez Autrement, « Militer, verbe sale de l'époque ». Le titre « Verbe sale de l'époque oui, », c'est percutant.
Oui, c'est vrai.
Thank you. Hey gros, sur le bitume, on a le moral à zéro. Hey gros, mais je sais pas combien de temps on va se tenir à carreau. Autour de nous, les marmots deviennent barreaux. C'est devenu la routine d'aller derrière les barreaux. Justement, en parlant de barreaux, mais ça flou, on pense à toi. Tous les mecs qu'on écho, qu'ils soient de vitri ou des neuros. Si ou gros, cerveau qui fonctionne au pot, pas des adeptes du tcherno. L'homme de matière, on te la fournit en gros. Mon gros, à la fois le tas, pico. Les gros, entre poteaux, les big poteaux. Dans le studio, on t'explique le topo. Gros, on veut le gros lot. Au menu du champagne, les go au gros lolo. Resto, entre mecs du ghetto. Pourquoi pas gros? Pour les parents, la famille, les big cadeaux. À la roco, des mecs foulettes locaux. On tire à la lispo, on va brûler leurs locaux. En fille africaine, autrement dit, la rage du ghetto. Si tu veux nous baiser, gros, faudra te lever tôt. Jamie Groot star et l'équipe, pas d'indic, pas d'indic, dick, dick, qui carburant chez Jamie Groot star et l'équipe, pas d'indic, pas d'indic, dick, dick, qui carburant chez Jamie Groot star et l'équipe, bro, pas d'indic, on est plutôt du genre, dick, qui carburant chez allure d'ordure fantasme, fumée toxique, me méfie-toi de ce que ma cité a pris, tu nous mates du mauvais œil, aime ça fait rien, faut que tu saches que je mène une vie pas très catholique, ma technique souvent illicite pour faire du fric, système D, là on s'amuse des flics rappelés, la suite tu connais, poursuite, couverture que j'ai trouvé mieux, la musique en échec. On se fait une clientèle, de la plus belle des tasses au plus grand criminel. Principalement qu'un free Harbig Hell. Grillé à 5 km, les keufs interpellent. Je réponds à l'appel, un syndic criminel. Si tu veux qu'on se rappelle de toi, y'a rien de tel qu'un bombette du bled. Pour causer des séquelles, je réponds à l'appel. On se lève le glaive, je viens des cités HLM. J'ai grandi avec la rage et la haine. Là où les bêtes s'adressent aux belles pour une nuit à l'hôtel. Mais faut pas qu'elle soit sourde d'elle, c'est pas une lune de miel. Je sais pas si elle est pucelle, mais dans le lit y'aura querelle. Querelle, après un cocktail, bon mec, clan Campbell. Je suis du clan 113, elle a trouvé ça sensuel. Sexuel, sur la version malfaiteur. Sexuel. C'est un rituel, là c'est que mafia africaine
gros.
Jamie Groot star et l'équipe, pas d'indic, dick, qui carburant. Jamie Groot star et l'équipe, pas d'indic, dick, qui carburant. Jamie Groot star et l'équipe, pas d'indic, dick, qui carburant. Jamie Groot star et l'équipe, pas d'indic, dick, qui carburant. Oh, dick, qui carburant. Oh, dick, qui carburant. Ouais gros, dick.
Camille Groot, star, musique de Didier Mehdi, remix de Boom Bass du duo Cassius. Je vous renvoie donc à ceux qui n'ont pas vu la série en 5 parties du documentaire sur Didier Mehdi, diffusée sur Arte TV, qui est vraiment remarquable. Tout aussi remarquable est la musique de Didier Mehdi qui nous a quittés il y a quelques années. Nous sommes donc en compagnie de Johann Feierberg qui publie aux éditions Autrement « Militer ». Militer, verbe sale de l'époque. Johann Feierberg, en quoi est-il aujourd'hui moins nécessaire ou moins efficace de s'engager plutôt que de militer? Je vais retourner la question de façon plus positive. Pour quelle cause aujourd'hui l'engagement vous paraît-il insuffisant et pour laquelle nous devrions plutôt militer?
C'est toujours difficile de dire parce que ça implique quelque chose de... En fait, la question du militantisme, je pense que ça ne relève pas d'une décision, mais ça relève d'une nécessité. En fait, militer, c'est... on milite parce qu'on est contraint de le faire. Moi, ça a été mon expérience personnelle. Je n'ai pas été militant pendant des années. J'ai fait mes études. J'étais, vous l'avez rappelé, j'ai été fait docteur en littérature. Et puis après, je suis allé dans le secondaire. Et dans le 93, je suis enseignant dans le 93. Et c'est là que j'ai commencé en fait à militer. Mais je n'ai pas commencé à militer par choix, parce que je me suis réveillé un beau matin et que Jules Vallès m'avait parlé dans mon rêve pour être l'insurgé à communard. Ça aurait pu, effectivement. Mais tel, malheureusement, n'a pas été le cas, mais en fait, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a des conditions matérielles, il y a des conditions humaines, il y a une raréfaction de l'idée de démocratie, de partage et d'équité qui font que l'absence de justice sociale, à un moment, vous contraint. Et je pense que le militantisme, ce n'est pas tellement en fait une question de courage, ça le devient de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé à militer, on était à l'horizon de l'année 2005, qui est quand même une année particulière dans la société française, puisque c'est l'année des émeutes de banlieue. C'est aussi l'année d'un déni de démocratie dont la France ne s'est pas remise, à savoir la négation du référendum, des résultats du référendum sur la Constitution européenne. Et puis, c'est la naissance aussi d'un phénomène qui maintenant est très négatif, mais qui peut être positif aussi, c'est l'apparition des réseaux sociaux aux États-Unis. Et 2005, c'est vraiment à la fois la négation de la démocratie et puis la récupération de la démocratie par le numérique. Et à partir de là, moi, j'étais à l'époque au lycée Mozart du Blanc-Mesnil et on était tout un groupe d'enseignants à essayer de réclamer des moyens. C'est comme ça que le militantisme est né, en tout cas pour moi. Et donc, choisir une cause, je ne sais pas, mais en tout cas, chacun choisit selon finalement ce qu'on appelle, un petit peu pompeusement, mais qui est assez juste en rhétorique, son ethos, c'est-à-dire sa personnalité. C'est en fait ce qui s'impose à soi, c'est ce qui vous tombe dessus dans votre vie pour que vous puissiez continuer à exister et en fait, finalement, à survivre. Voilà.
Je vous cite Johann Feierberg dans votre livre, à la page 259. Le militant, puis l'émeutier, ne réclame finalement rien d'autre que le retour de la démocratie parmi nous. Une voie par laquelle se ferait entendre le véritable désir des citoyens pour le bien commun et un vivre commun. Vous poursuivez, ce qui fait vivre et vibrer la démocratie, c'est plus que jamais la méfiance des uns et des autres vis-à-vis de l'institutionnalisation, donc l'instrumentalisation du démocratique. Aujourd'hui, de quelle manière la démocratie est-elle instrumentalisée aujourd'hui en France ?
Mais je pense qu'en France, particulièrement depuis ce qu'on vit, depuis les résultats confisqués de la victoire pour la majorité relative du NFP le 7 juillet, je pense qu'on est au sommet de ce que la France a inventé au 19e siècle. Au 19e siècle, la France a développé un modèle, un contre-modèle aux révolutions, aux insurrections de rue qu'on évoquait tout à l'heure avec 1830, le printemps des peuples en 1848 et puis la Commune. Elle a inventé deux choses, la France. Elle a inventé une figure royale qui est celle de l'électeur. Et l'électeur, en fait, c'est celui qui répondrait par la raison, en fait, et son bulletin de vote à une colère incontrôlable, passionné, déréglé, qui s'exprimerait par l'insurgé dans la rue. Et donc, l'électeur, c'est pas une manière de répondre, je dirais, techniquement au désir de l'insurgé, c'est une manière technique d'annuler le désir de l'insurgé. Et donc, l'électeur, qui pourtant, vous voyez, on va voter, enfin pour un grand nombre d'entre nous, même si l'abstentionnisme guette et est aussi une réponse à la suprématie de cette figure de l'électeur. Cette figure de l'électeur, en fait, elle a été retournée contre la démocratie. Et ça, on le voit, là, nous on le vit depuis le 7 juillet, c'est-à-dire qu'on vous a demandé d'aller voter en masse, les gens se sont précipités pour aller voter, et qu'est-il advenu ? On a eu un résultat d'élection qui a surpris au premier chef le président de la République, et qui n'a pas donné en fait satisfaction, qui n'a pas donné la majorité, à la majorité relative du Nouveau Front Populaire les moyens de constituer un gouvernement. Peu importe que ce gouvernement est tenu ou pas, ce n'est pas notre question. La question, c'est qu'il devait légitimement accéder à la gouvernementalité et qu'il ne l'a pas fait parce qu'on en a décidé autrement. Et donc, cette première figure, c'est une figure, je dirais, qui empêche le militant de militer. La deuxième figure, qui est beaucoup plus surprenante et insidieuse, c'est celle du journaliste. La figure du journaliste est une figure qui a été totalement vidée de son sens.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, par exemple, le journalisme, c'est l'enquête. Le journalisme, c'est le travail de fond, c'est l'enquête. C'est, par exemple, mener des entretiens comme on mène ici, comme vous menez ici avec moi. C'est interroger, c'est débattre, c'est essayer de construire un raisonnement ou c'est proposer d'enquêter sur quelque chose de dissimulé, montrer en quoi, quand vous regardez le réel, vous n'avez pas remarqué quelque chose. Et donc, ça, c'est des figures très très fortes du journalisme. Mais cette figure de l'enquête, cette figure du débat du journalisme, a été progressivement remplacée, mais elle est née avec, au XIXe siècle, par la figure du tribunisme, c'est-à-dire de l'opinionnisme, à savoir, on propose des tribunes, des éditoriaux, qui viennent, en fait, concurrencer la voix de l'insurgé, concurrencer la voix du révolutionnaire, pas pour justement lui donner de l'écho, mais pour lui confisquer la parole. Et c'est pas un hasard si jusqu'à récemment, les journaux, notamment des journaux d'opinion, étaient vendus dans la rue au même titre que les insurgés se trouvaient dans la rue en criant. Le journal vendu à la criée vient concurrencer par son cri justement le slogan de l'insurgé. Et les chaînes d'information continue, qui ne sont pas des chaînes d'information, qui sont des chaînes d'opinion continue, je ne dirais pas de désinformation, parce qu'il y a quand même d'excellents journalistes sur ces chaînes, mais la manière dont les débats se multiplient, notamment le soir, où des choses, des contre-vérités, cette fois sont dites, au mépris même des journalistes qui travaillent dans les dites rédactions, montre combien, finalement, ces lieux d'opinionnisme, d'éditorialisme, sont des lieux de confiscation d'une expression militante. Et ça, pour moi, c'est ce qui est au cœur de la manière dont on confisque et dont on salit le militantisme.
Alors aujourd'hui, Johann Feuerberg, quels sont aujourd'hui les véritables contre-pouvoirs ?
Les véritables contre-pouvoirs, je sais pas exactement quels sont les véritables contre-pouvoirs. Je pense que, par exemple, le journalisme, alors que je viens de... Oui. Le journalisme d'enquête, le journalisme qui fait son travail, est un contre-pouvoir très efficace.
En tout cas, il devrait l'être.
Il devrait l'être, mais vous avez, par exemple, des sites comme Mediapart, vous avez des sites comme Street Press, vous avez des sites vraiment qui travaillent et qui font des enquêtes. Vous avez même, par exemple, sur le service public, vous avez Complément d'enquête ou, par exemple, Élise Lucet, où vous avez des émissions qui proposent de construire un débat, comme par exemple des émissions comme C'est ce soir sur le service public, qui sont de véritables travaux journalistiques, qui là proposent justement des contre-pouvoirs ou interrogent plus justement la manière dont le pouvoir se constitue en fable. C'est-à-dire que le véritable contre-pouvoir, c'est celui qui parviendra à nous faire comprendre qu'on est dans la construction d'une fable, et cette fable, en fait, il faut qu'on nous réveille de cette fable. Moi, j'aime beaucoup le mouvement Extinction Rébellion, ou Dernière Rénovation, qui sont des mouvements qui surgissent, par exemple, quand on jette de la soupe sur une œuvre d'art, tout le monde peut crier au scandale, l'œuvre d'art est rarement touchée, elle est derrière maintenant, avec toute cette sacralité de l'œuvre d'art, elle est derrière un vitrage blindé, et fort heureusement pour elle, il ne lui arrivera rien. Mais chercher à atteindre l'œuvre d'art, c'est chercher à atteindre non pas l'œuvre d'art en elle-même, mais la représentation, l'image, l'idée qu'on se fait même d'un réel, et on ne perçoit pas que le réel dans lequel on vit est un réel qui est lui-même construit comme une fable. C'est-à-dire que c'est ça la puissance de ce pouvoir politique et de ce pouvoir qui n'est pas démocratique, c'est d'injecter à l'intérieur de notre quotidien, qui est pourtant si difficile, si pénible, une image finalement d'un récit qui nous guiderait jusque, je ne sais pas, à la démocratie, alors même qu'on sait que c'est difficile. Et c'est ce que j'évoque aussi à l'intérieur du livre, c'est que je crois que moi, en tant que chercheur en littérature, j'ai toujours survalorisé le pouvoir positif de la littérature. La littérature, quand on l'enseigne, quand on la lit, comme vous, vous la lisez, vous et moi la lisons, c'est une littérature dont on peut dire qu'elle a une visée humaniste. Mais je pense que, en tout cas, moi, je me trompe sur cette visée humaniste parce qu'il y a tout un pan de la littérature qui a une puissance négative, une puissance nocive et une puissance très violemment antidémocratique et parfois à son corps défendant. C'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est la puissance anti-militante de la littérature.
Voilà, justement, je voulais que nous abordions ce chapitre de votre livre, Johann Feuerberg, la littérature puissance anti-militante. Donc, la littérature, écrivez-vous, empêche de militer. De quelle manière et de quelle littérature parlez-vous ?
Alors, heureusement, ce n'est pas toute la littérature, mais c'est ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire, pour moi, c'est ce que j'expliquais à l'instant, la littérature a une visée humaniste, et c'est la littérature qui nous intéresse et sur laquelle je clôt l'ouvrage, mais il y a tout ce pan de littérature dont je parlais à l'instant, qui est une littérature qui produit, je dirais, deux choses. Tout d'abord, elle produit de l'amnésie sociale. C'est-à-dire qu'elle ne se donne pas vraiment, et c'est ça qui est assez étonnant, elle ne se donne pas comme un pur divertissement. On a plutôt tendance à dire, oui, la littérature d'imagination permet de s'évader du réel, elle empêche de militer parce qu'elle empêche de voir les vrais problèmes et vous soumet en fait de faux problèmes. Mais je pense que c'est une partie seulement de la question, ça existe bien évidemment, mais c'est qu'une partie de la question parce que vous avez toute une littérature dont la fonction est une fonction d'effacement social en prétendant justement vous montrer comment la réalité fonctionne. Et c'est ça qui, moi, est beaucoup plus problématique à mon sens. C'est cette littérature qui se prétend engagée de nos jours, sorte de renouveau de la littérature qui se frotterait au réel et qui a une vocation, je dirais, explicitement politique, mais qui fait de la politique, je dirais, un outil de restriction sociale et un outil, je dirais, qui nous laisse, en fait, désarmés. Voilà. Et notamment, cette littérature, elle passe par ce qu'on pourrait appeler un néo-réalisme. Et ce néo-réalisme essaye, par exemple, c'est le cas de Nicolas Mathieu dans Connemara, paru récemment, son récit néo-naturaliste essaye de prendre en charge tout ce qui se passe dans la société avec une jeune femme qui est en burn-out et qui ne sait pas comment retrouver un certain équilibre dans sa vie et qui se réfugie dans une liaison sentimentale. Et moi, c'est ce que j'appelle cette littérature sentimentale qui, en fait, croit que le récit du 19e siècle, un petit peu adapté, un petit peu sophistiqué, ayant un petit peu lu Jean Echenoz, alors que Jean Echenoz, c'est quand même des encablures au-dessus, puis Jean Echenoz, politiquement, justement, fait prendre ses distances avec tous les attendus de la société, mais avec deux, trois petites pirouettes formelles, croit que, finalement, si on reprend le bon vieux récit à la Zola, matinée d'un peu de nouveau roman, on va s'en sortir. Mais quand on lit Nathalie Quintane, quand on lit Emma Marsante, quand on lit Tanguy Viel, quand on lit aussi Jean Echenoz, on s'aperçoit que reprendre le récit n'est pas une solution. Que le récit doit être questionné et que précisément la littérature devient militante, parfois même sans le savoir, parce que c'est une littérature qui est là parce qu'elle questionne précisément les discours qui nous abreuvent et que le récit qu'on veut nous vendre, en fait, n'est qu'une manière d'idéologiser constamment le réel. Et je pense particulièrement à deux textes clés pour moi qui sont très récemment publiés, qui sont « Vivarium » de Tanguy Viel, qui justement propose de redécouvrir le vivant, et Emma Marsante, qui a publié deux textes qui pour moi sont très importants chez Verdier, « Une mère éphémère » et « Les fous sont des joueurs de flûte », qui questionne le rapport que l'on a à la réalité, le rapport, le récit qu'on veut nous imposer. Et je crois que ce qui nous permettra de sortir de ce que moi j'appelle, et Emma Marsante aussi appelle, le deuil gelé de l'histoire, c'est précisément la manière dont on va pouvoir à la fois, je dirais, faire trois choses, à savoir décoloniser le langage, qui a été colonisé par le néolibéralisme, désarmer les fables, c'est-à-dire cesser d'être des victimes narratives du néolibéralisme, et puis démissionner. Finalement, être comme des Bartleby, rester finalement dans une manière de contestation qui échappe à tout le monde.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création. En version originale, Patrick, Léon Émile.
Nous sommes toujours avec Johan Feierberg qui publie Militer, verbe sale de l'époque, aux éditions Autrement. Alors, Johan Feierberg, je reviens donc à la littérature, mais malgré tout, même si on n'écrit pas de la fiction, est-ce que l'imagination peut être une manière de militer
avec, oui.
Est-ce que son imaginaire peut être un instrument de militantisme?
Oui, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. J'évoquais Tanguy Vielle et Mamarsante, mais je crois qu'il
alors
y a...
Alors là, ce sont des personnes qui écrivent. Je veux parler donc de quelqu'un qui n'écrirait pas.
Ah oui, quelqu'un qui n'écrirait pas peut être un lecteur. Mmh. Quelqu'un qui n'écrit pas peut être un lecteur. Et je pense que si j'essaye de voir en quoi la littérature peut être un élément malheureusement négatif, elle est quand même une porte de sortie. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des méga-bassines, notamment du mouvement des soulèvements de la Terre. Mmh. Et les soulèvements de la Terre ont fait paraître au printemps un essai très important à la Fabrique qui s'appelle « Première secousse », dans lequel il parle de désarmer, arrêter la machine. Ils ont deux expressions, il faut arrêter la machine et désarmer en fait ces fables qui nous obstruent, ces fables qu'on n'arrête pas d'entendre et qui nous posent problème. Et je pense que la littérature, elle a un rôle triple, qui est d'abord de sonder lexicalement la manière dont on parle. Alors, moi, très modestement, je le fais avec Militer, mais vous avez une écrivaine comme Sandra Lucbert qui questionne précisément la manière dont est-ce que finalement les mots qu'on emploie sont des mots dont on a perçu tout le sens. Et Sandra Lucbert a écrit à propos de ce terrible procès de France Télécom un livre-clé qui s'appelle « Personne ne sort les fusils », qui questionne justement le rapport qu'on a au langage. La deuxième chose, c'est celle qu'on évoquait à l'instant, celle de désarmer. Et je crois qu'il y a la possibilité pour ceux qui n'écrivent pas de pouvoir trouver des fables qui sont des fables, je dirais, qui peuvent en tout cas motiver ou remotiver le rapport au réel. Je pense notamment à Chloé Delhomme qui a fait paraître chez Point Féminisme au printemps 2024, donc là récemment, un très court récit qui d'ailleurs a paru directement, un inédit a paru directement en poche pour qu'il circule le plus démocratiquement possible, qui s'appelle Fallers, et qui est une réflexion sur la société patriarcale, mais qui n'essaye pas d'être, je dirais, de la littérature du réalisme soviétique. C'est-à-dire, on n'est pas au moment où on va proposer un récit qui va nous faire militer. Voilà. Ça, c'est, je crois, il faut sortir de cette espèce d'idéologie et voir que ce sont des récits très mobiles et des récits très joueurs. Et donc, elle propose l'histoire de cette jeune Violette qui a des super pouvoirs et qui est aux prises dans la société patriarcale et qui cherche, en fait, elle a un super pouvoir, c'est tous les hommes qui harcèlent, elle leur fait, par la pensée, exploser le phallus. Et évidemment, on voit le caractère à la fois grotesque de ce super pouvoir, mais surtout le caractère extrêmement fin et joueur, ironique, extrêmement drôle d'un récit qui est extrêmement bien écrit et qui fait réfléchir, en fait, avec beaucoup d'humour et de distance, à la manière dont on peut réinvestir affectivement le réel, je dirais, d'affects forts, puissants, qui peuvent être des moyens de continuer à vivre. Et donc, loin justement de faire de la littérature une sorte d'appui grandiloquent, ce qu'il faut faire, c'est, comme le dit Emma Marsan, de s'en sortir par le bas. C'est-à-dire quitter les positions masculinistes, héroïcisées, qui sont des positions qui, en fait, conduiraient à reconduire l'héroïsme du grand écrivain et retrouver cette névrose nationale que chérissent tant les Français à travers des figures masculinistes comme Sylvain Tesson, Antoine Compagnon, toute la petite farandole de réactionnaires et grabataires que la France aime chérir. Et à partir de là, s'en sortir par le bas, c'est vraiment, je pense, comprendre que c'est très très difficile, comme on le dit depuis le début de cette émission, de militer aujourd'hui. C'est très compliqué, c'est très dur, c'est très violent. Et s'en sortir par le bas, c'est essayer de trouver à sa mesure, à ses moyens, une porte de sortie vers ce qui peut être, comme on le disait tout à l'heure, mais peut-être de manière encore plus décidée maintenant, une poche de survie.
Johann Feuerberg, je reviens sur un point que vous avez déjà évoqué. Vous écrivez donc que seule la possibilité de discuter pourrait nous redonner la capacité de militer. Cela passe par une décolonisation de la langue. Comment peut-on décoloniser la langue française aujourd'hui ?
C'est une entreprise, c'est une tâche infinie. Je pense que...
Justement, à sa hauteur, justement.
À sa hauteur, je pense que... La France a vécu, vit dans un esprit néocolonial qu'elle n'admet pas. On nous dit qu'on est dans le post-colonialisme, c'est vrai pour certains, mais c'est globalement faux pour tout le monde. Parce que je pense que l'esprit néocolonial, impérialiste, est viscéralement lié à un pouvoir économique, qui est celui de la France. Quand vous marchez dans les rues de Paris, vous marchez dans la puissance... Dans la puissance de l'empire colonial, cette richesse de Paris, elle se tient là, hein, indéniablement. Et le langage, il faut le traiter, je dirais, avec soupçon, avec une manière précisément d'interroger les termes et d'essayer d'accompagner cette possibilité de rediscuter. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il faut que finalement, le militantisme soit de nouveau une forme de vie et non pas une forme de mort, et discuter. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Ça veut dire d'être allé voir les autres et être avec eux aussi. Et ça, quelqu'un qui milite, quelqu'un qui a essayé de faire un mouvement de grève, quelqu'un qui a essayé de construire un mouvement, peut vous le dire. Moi, je peux témoigner à ma modeste échelle de la grève du bac que nous avions menée avec un certain nombre de collègues en 2019. Et la grève du bac, elle a été depuis très longtemps... le centre même des fantasmes de tous les enseignants. Ça a été toujours repoussé parce que les conditions sont arrivées finalement à un tel point de rupture, notamment avec Jean-Michel Blanquer, que c'est devenu une nécessité. Et on a été quelques-uns, dont ma sœur, notamment, des amis, des collègues, à faire en sorte que cette grève du bac prenne forme. Et cette grève du bac, ça a été très difficile de la mener. Il a fallu avoir beaucoup de discussions. Il a fallu trouver les conditions d'une discussion et la possibilité de parler. Et cette possibilité de discuter, je pense que les ennemis du militantisme, c'est-à-dire finalement ce que j'appelle les stratocrates, c'est-à-dire on vit dans une stratocratie, c'est-à-dire une sorte de régime militaire mais sans uniforme, qui fonctionne avec le schéma de la guerre civile et puis aussi la démophobie, c'est-à-dire la haine du peuple qu'on voit depuis le 7 juillet. Chaque fois, ces stratocrates, comme Macron par exemple, pensent qu'il est très facile pour les militants de discuter. Mais créer un espace de parole, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est devenu plus difficile qu'avant, notamment à cause de l'emprise des réseaux sociaux ?
Alors oui, alors les réseaux sociaux, ils ont émergé, notamment MySpace ou Facebook, autour de 2005. C'est toujours réversible, en fait, les réseaux sociaux. Et c'est comme toujours, finalement, avec l'usage de la parole. Tout dépend, finalement, de ce qu'on en fait. Mais effectivement, les réseaux sociaux sont à la fois des espaces d'annulation de la parole, de confiscation. On voit bien la manière dont Musk, qui a racheté Twitter, en a fait le tremplin idéal, à la fois d'une fascisation de la langue et de l'usage, qui a permis à Trump de triompher, d'écraser totalement Kamala Harris, qui est une macroniste, hein, c'est aussi pour ça qu'elle a perdu. C'est pas parce que Trump a été excellent, c'est parce qu'elle, elle a été très mauvaise.
Mais il y a toujours diverses raisons.
Mais voilà, mais notamment cette raison-là, parce qu'elle l'a sous-estimée. Et elle a notamment sous-estimé l'usage des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un point d'opposition et de contradiction. Les réseaux sociaux, moi je le vois, chaque fois qu'il y a une émission, chaque fois qu'il y a des propos qui sont tenus dans la presse, c'est aussi un espace de débriefing, c'est un espace aussi d'analyse du langage, c'est un espace aussi d'exercice rhétorique pour montrer ce qu'on n'a pas vu. On apprend beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. On est désinformé, mais aussi c'est un espace, je dirais, pour employer un grand mot, épistémique, c'est-à-dire ça étend le champ de la connaissance. Moi, quand j'ai écrit « Militer, verbe sale de l'époque », j'ai beaucoup regardé les comptes fascisants ou les comptes macronistes pour comprendre quel usage il faisait du mot militer. Et chaque fois, en fait, ces contes-là, ils sont très instructifs à partir du moment où ils font quelque chose, ils rendent le langage visible. Barthes disait, en 75, dans Roland Barthes par Roland Barthes, « J'ai une maladie, je vois le langage. » Et moi, je peux vous dire que finalement, quand on est en bonne santé, on arrive aussi à voir le langage et surtout à voir comment les autres le rendent malade. Voilà. Et là, je pense que les réseaux sociaux, ils ont cette faculté à pathologiser le rapport qu'on a au langage pour mieux nous faire comprendre comment on peut être finalement pris au piège par celui-ci.
Et est-ce que nous avons, vous et moi, Johann Ferber, on a lu un livre qui est celui de Jacques Deschamps intitulé « Éloge de l'émeute ». Est-ce que vous, pour finir, quelle différence établissez-vous entre le militantisme et l'émeute, justement?
L'émeute, en fait, c'est de la démocratie directe. C'est-à-dire, l'émeute a quelque chose de stupéfiant, d'ailleurs, même dans la presse, c'est que personne ne remet en cause son fondement. C'est-à-dire que personne ne va dire, par exemple, avec le meurtre de Naël, personne n'a dit que ça n'était pas vrai, que ce n'était pas un fait inventé. Bref, ça dépasse, on est dans l'épreuve de la vérité. Et c'est une sorte de démocratie directe. Mais je dirais que le militantisme, l'émeute peut être la base du militantisme, mais l'émeute a un problème, à savoir qu'elle se heurte en fait à la récupération de sa violence. Et cette violence, elle peut être récupérée. Et à partir du moment où l'émeute a conscience elle-même de sa violence, soit elle s'arrête, soit elle se managérialise. Et c'est ça, en fait, c'est l'émeute, elle doit rester dans un tourbillon actif qui est l'espoir de quelque chose d'autre. Les émeutiers ne cassent pas pour casser. Et quand, par exemple, ils détruisent une école, c'est que le macronisme l'avait déjà détruite. Ils viennent accomplir physiquement ce que le macronisme a fait symboliquement. Et en cela, ils visibilisent la destruction de la société. Mais ça ne peut être qu'une base, je crois, pour commencer à réfléchir, à reconstruire.
Johann Ferber, votre livre, en tout cas, nous, vu comme on l'a souligné, ce qu'on a vécu depuis les mois derniers, mai-juin. Et je crois que votre livre, dans le moment où nous sommes en tout cas, apporte une réflexion, une respiration dont nous avons bien besoin. Voilà.
Ben merci à vous surtout de m'avoir reçu.
Je rappelle le titre de votre livre, Johann Ferber, « Militer, verbe sale de l'époque », c'est édité chez Autrement. Notre émission s'achève. Je remercie donc... Alors, qui était à la technique aujourd'hui? J'ai plus ma petite fiche. Il s'agit bien sûr de Armand Gury et Christian Menant. Dans un instant, vous retrouverez Del Sol, Reggae Vibes. Restez à l'écoute d'Aligre FM. Ensuite, ce sera donc... c'est notre ami... j'ai plus en tête qui... C'est Black Tifichi, à 22h30, pardon. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h, sur Aligre FM 93.1. Bon week-end, bonne semaine, à la semaine prochaine.
Version originale, Patrick, Léon, Émile. Yeah.
Cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson's bitch a potato. At the table, cookie shaving and touching basement and bases. But they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and knowing me like a motherfucker. This buster owe me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got my tan.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.